franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les clés pour comprendre l'Islande avec le géologue Arnaud Guérin.
Il y a des moments où on cherche même l'été. Oui. C'était un peu le cas l'année dernière. Mais à chaque fois, ce pays... Il faut bien comprendre que c'est la lumière qui fait tout et que ces paysages du début de la planète, on a vraiment l'impression d'ouvrir les volets, sachant qu'il n'y a pas de volets dans les maisons
c'est
en Islande.
Vrai, il faut s'y faire aussi.
Il faut s'y faire aussi, ouais. Mais on regarde dès qu'on ouvre les yeux, et l'été il peut être 2h du matin, hein, vous voyez un paysage qui est un paysage intouché, où l'homme n'a pas posé son empreinte, parce que simplement ce pays est tellement rude, cette météo est tellement rude, que voilà, c'est une porte vraiment pour l'aventure.
Ouais, ces forêts pétrifiées, comme on l'entendait dans l'extrait de Voyage au centre de la Terre, il y a très peu d'arbres en Islande, hein.
Alors c'est un pays sans arbres, donc c'est une différence majeure, parce que nous on était habitués à la troisième dimension de la verticalité de la végétation, et en Islande le climat est tellement rude que les arbres sont sur le sol, donc vous pouvez avoir des saules qui sont des saules arctiques qui ont plusieurs centaines d'années mais qui font 5 cm de hauteur et qui se dispersent sur 30, 40, 50 cm, donc... Le climatique est une des clés pour comprendre ce qu'est ce pays. L'autre clé pour comprendre ce qu'est ce pays, c'est bien sûr le volcanique, puisque l'Islande naît de deux phénomènes extraordinaires juxtaposés. Un phénomène qu'on va normalement voir en sous-marin à 3000 mètres de profondeur, qui est la dorsale médio-océanique, c'est-à-dire l'ouverture de l'Atlantique. Et ça se fait à un rythme de 2 à 3 cm par an. Oui. Mais si on n'avait que ce type de volcanisme, on n'aurait pas d'île, on n'aurait pas d'Islande. Il a fallu un autre phénomène, qui est un phénomène qui s'appelle un point chaud, qu'on connaît ailleurs, à La Réunion ou à Hawaï, et qui est venu se juxtaposer juste sur cette dorsale et qui a fait arriver un volume de magma beaucoup plus conséquent et qui a permis à ce que l'Islande... perce la surface de l'océan pour créer une île. Et ça se passe il y a un peu moins de 20 millions d'années.
Donc c'est une jeune île. Hein.
Donc c'est vraiment une terre, c'est une terre, on est dans le...
Juvénile, quasiment.
Voilà, exactement.
Mardi, le cerveau est-il multitâche avec Laurent Serfati et Jean-Philippe Lachaud?
La charge mentale, c'est tout ce qu'on est capable de faire et est-ce qu'il reste un petit peu d'espace pour faire autre chose? Et donc, on suit en effet un pilote d'hélicoptère qui est sur un simulateur et il lui arrive plein de pannes. Enfin, c'est vraiment... le pauvre, il a vraiment pas de chance, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est super entraîné, donc qui est capable de gérer toutes ses pannes. Et moi, par-dessus, je rajoute une couche et je lui dis, est-ce qu'on peut faire la conversation? Alors, au début, j'ai essayé une conversation normale. Il répondait assez facilement tout en gérant ses pannes. Donc j'ai fini par lui faire réciter l'alphabet à l'envers.
Ah oui, alors
là,
ça,
quand même, ça devient difficile. Oui. De toute façon, c'est difficile. Oui. Et voilà. Et ce qu'on m'explique, c'est même s'il est capable de faire tout ça, ce pilote surentraîné, il est quand même moins bon dans ses différentes tâches. Il perd du temps parce qu'il passe d'une tâche à l'autre, hein, en fait. Et ça, c'est un coût pour le cerveau.
Oui, donc même quand on est très expérimenté, comme les pilotes militaires, par exemple, les performances sont moins bonnes. Parce que, Jean-Philippe Lachaud, le cerveau n'est vraiment pas dédié à ça. On ne peut pas traiter plusieurs choses en même temps. Pourquoi ? Parce que finalement, ça fait appel aux mêmes zones de neurones dans notre cerveau ?
Dès que vous utilisez le même réseau, le réseau ne va pas pouvoir faire deux choses en même temps. Moi, j'aime bien l'image. Ça se voit très bien sur un muscle. On ne peut pas contracter le doigt et l'étendre en même temps. Quand c'est des muscles, il n'y a pas de problème pour le comprendre. Mais pour les neurones, c'est la même chose. Vous avez le même groupe à qui vous avez demandé deux choses. Par exemple, de comprendre un texte sur un écran. Mm-hmm. Donc voilà, un petit SMS. Puis en même temps, de comprendre quelqu'un qui vous parle. Là, vous êtes cuit parce que c'est le même réseau qui doit faire les deux et il ne peut pas fonctionner en même temps. Ouais. Alors, il y a moyen quand même de s'en sortir. C'est pour ça que de l'extérieur, on a parfois l'impression que certaines personnes y arrivent. C'est de basculer très rapidement. Et ça, c'est une discipline, c'est une technique qui peut s'apprendre. C'est une voie de sortie.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un vous parle, vous n'avez pas besoin vraiment d'être attentif à chaque mot, parce qu'il y en a beaucoup qui sont prédits par le contexte. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sous-échantillonner, on va prendre un mot ici et là, et plus on connaît le message général et le domaine, plus on va être capable de reconstruire. Et c'est ce qui permet à un cerveau bien entraîné et puis bien réveillé de basculer entre deux conversations. Il va faire comme ça ce petit jonglage, mais il faut être bien frais dans sa tête. Ça fait appel à un circuit qui est très bien expliqué par un chercheur à Normalsup à Paris qui s'appelle Étienne Queclin, qui étudie très bien cette capacité à basculer de la tâche A à la tâche B sans perdre de vue le contexte général. Faut être vraiment frais.
Mercredi, addiction sexuelle, comment limiter les pensées sexuelles qui nous obsèdent, avec le docteur François-Xavier Pouda.
Il existe des programmes de traitement, notamment en thérapie comportementale et cognitive, où on va travailler sur les schémas de pensée. C'est-à-dire qu'en thérapie, on peut demander à la personne d'apprendre à noter par écrit donc les différents systèmes de pensée. Il faut savoir que dans la conduite addictive, le moment entre l'envie que j'ai de passer à l'acte et le passage à l'acte, c'est en quelques millionièmes de secondes, en quelques secondes, et plus l'objet est présent parce qu'on est devant un écran, parce qu'on peut cliquer, plus c'est rapide, plus l'addiction va devenir importante, le caractère addictogène va être important. Donc tout ce que l'on va mettre en place, c'est d'essayer de permettre à la personne de prendre conscience de ses émotions qui sont présent au moment du passage à l'acte, et aussi des systèmes de pensée. Ça va pas durer longtemps, c'est pas très grave, ça va me faire du bien. Des pensées qui sont en même temps des pensées mensongères, des pensées permissives, et qui servent uniquement à maintenir le système en place. Donc on va leur permettre de décortiquer leur schéma et leur cycle de fonctionnement au niveau de l'addiction.
Ouais. Et après, une fois qu'on a opéré?
Alors après, quand ils ont pris conscience de ces systèmes de pensée, on va travailler avec eux, on le fait dans nos groupes à Nantes, on va travailler avec eux sur la modification de ces schémas de pensée, d'autant plus qu'ils prennent conscience que leur vision qu'ils ont, par exemple de l'autre sexe, la vision qu'ils ont de la relation, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, sont des visions extrêmement perturbées et dysfonctionnelles qui les amènent à croire que la sexualité va leur apporter satisfaction. Et donc on va travailler sur ces schémas de pensée, plus ou moins conscients, qui vont les aider petit à petit par une mise à distance, qui vont les aider à sortir de leur conduite addictive et de leurs croyances irrationnelles qu'ils ont par rapport à la sexualité.
Je dis, dans quelle Afrique vivait Homo sapiens il y a 300 000 ans, avec le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Afrique du passé, ça n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui.
Ah oui, vous avez montré une carte au Collège de France, là aussi, c'est étonnant.
Il y a eu des fluctuations climatiques très très fortes. D'une façon générale, le continent est devenu de plus en plus aride au cours des dernières centaines de milliers d'années. Et il y a eu plusieurs périodes qu'on appelle des périodes de Sahara vert, qui portent bien leur nom, c'est-à-dire que en fait le Sahara, non seulement il est vert, mais il n'y a plus de Sahara en fait. C'est-à-dire qu'on a une surface qui est grande comme les États-Unis d'Amérique, hein, le Sahara c'est très grand, qui est couverte par des savanes, des prairies, parfois même arborées, avec des rivières, des lacs qui peuvent être grands comme l'Allemagne, hein, pas des petits lacs, et puis des girafes, des éléphants, des zèbres, et des gazelles que chassent nos hommes de Djebel Irhoud. Alors non seulement on a des faunes qui sont très proches des faunes qu'on a en Afrique de l'Est ou dans d'autres parties d'Afrique, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent dans cette immensité, et donc des groupes de chasseurs-cueilleurs qui connaissent des périodes d'isolement quand l'aridité monte, donc des régions où l'évolution humaine se fait un petit peu en vase clos, et puis d'autres époques où il y a des connexions entre tous ces groupes, des échanges de gènes, d'innovation, de comportements nouveaux, et c'est peut-être cette espèce de bouillonnement, si je peux dire, du continent africain au cours des derniers 200 ou 300 000 ans, qui ont donné naissance à une forme d'homme qui n'existait nulle part ailleurs sur la planète, qui a développé une complexité sociale, une complexité technique, qui fait que c'est peut-être pour ça qu'elle a remplacé toutes les autres formes humaines quand elle a commencé à se répandre hors d'Afrique.
Oui, parce qu'à l'époque, il y a 300 000 ans, donc il y avait Homo sapiens, mais on n'était pas seul.
Alors, aujourd'hui, sur Terre, il y a une seule espèce humaine, heureusement d'ailleurs, et on est habitué à cette idée-là. Mais il faut bien se rendre compte que cette situation d'une espèce unique, très homogène, avec une origine commune récente, c'est une situation qui ne s'est jamais produite dans le passé, quasiment. On a eu, en remontant simplement 100 000 ans en arrière, des Néandertals qui vivaient en Europe, des Denisoviens en Asie, les hommes de Flores dans une île indonésienne, des ancêtres des hommes modernes en Afrique. On a daté récemment ce fameux Homo naledi, ce petit bonhomme avec un cerveau gros comme un pamplemousse en Afrique du Sud, alors qu'il aurait peut-être survécu jusqu'à 300 000 ans. On n'est pas à 100 000 ans, mais enfin, à l'époque de Djebel Irhoud, il y avait peut-être, même à l'intérieur de l'Afrique, différentes formes, très différentes.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr, à la page de La Tête au Carré.